Les informations, Sonia Bernauer-Mia.
Bonjour, la brasserie de La Fontaine change de main à La Chaux-de-Fonds. Propriétaire de l'établissement depuis 18 ans, les Rudy lâchent du lest pour des raisons familiales. L'idée est de ne pas chambouler les habitudes des clients. Elle fait confiance à deux malfrats et ses économies s'envolent. Une habitante de Saint-Imier, Janine Favre, âgée de 92 ans, a été victime d'une arnaque aux faux policiers. Son témoignage dans ce journal. Trafigura face à la justice, le géant des matières premières comparé aujourd'hui devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone pour corruption en lien avec ses activités dans le secteur pétrolier en Angola. C'est le gris qui domine aujourd'hui dans le ciel de la région. Les nuages s'accompagnent d'averses qui devraient perdurer jusqu'à cette nuit. Les rumeurs vont bon train sur les bistrots proches d'Espace Cité à La Chaux-de-Fonds. Le restaurant de la tour emblématique de la métropole horlogère est vide depuis plusieurs mois. Le tenancier a fait faillite et il y a du changement aussi à la brasserie de La Fontaine. L'établissement marche fort depuis 18 ans, mais les Rudy doivent lâcher du lest pour des raisons familiales. Propriétaires des murs, ils vont déléguer la gestion du restaurant à une autre tenancière. C'est Minka Yuseinova qui va reprendre officiellement le flambeau. L'ancienne serveuse d'Espace Cité n'est d'ailleurs pas la seule à descendre de la tour pour intégrer la brasserie. L'idée, ce n'est pas de bouleverser la carte des mets et des bières de La Fontaine. Nathalie Rudy, co-gérante de la nouvelle société de gestion de la brasserie.
Non, alors le but, c'est que ça reste comme c'est actuellement. On a envie de garder ça. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'avec les nouveaux collaborateurs, on a déjà mis ça en place. Ça fait plusieurs mois que certains travaillent avec nous. Donc on a vraiment envie que ça continue sur cette lignée et que La Fontaine reste La Fontaine.
Que vous disent les clients? Ils savent?
Les clients savent, oui. Certains sont contents, certains moins, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde reste.
La brasserie de La Fontaine à La Chaux-de-Fonds emploie une quinzaine de personnes en comptant les extras. La bière est brassée dans un local derrière le restaurant et un bar a été installé dans l'arrière-cour en 2019. Le tenancier actuel, Pascal Rudy, devrait rendre les clés du restaurant le 1er janvier 2025.
La vie a fait que je suis devenu papa de reprise en l'espace de 2 ans. Donc voilà, j'ai besoin de me dégager du temps pour ma famille. Et après, bah, je pars pas définitivement. Je continue la production de bière et j'ai mon deuxième établissement, Fort Café.
L'idée, c'est aussi de vendre la bière un peu plus largement?
Oui, bah, c'est un côté que j'aimerais bien développer. Bien sûr, trouver un peu d'autres établissements qui prennent la bière et pouvoir le mettre dans différentes manifestations.
Il y a plus de 20 brasseries dans le canton de Neuchâtel, il n'y a pas saturation?
Il faut jouer des coudes un peu, c'est pas forcément facile, c'est, vrai que, ben, c'est vraiment quelque chose qui est en développement. Il faut pouvoir se démarquer, faire vraiment de la qualité pour pouvoir faire sa place.
Fort Café, c'est l'ancien dub qui est situé quasi au pied d'Espace Cité. La tour n'a elle toujours pas de nouveau tenancier. L'assurance AXA, propriétaire du bâtiment, dit prévoir, je cite, un loyer raisonnable et durable pour le futur tenancier en sachant que l'exploitation devra partir sur de nouvelles bases. C'était un dossier de Vincent Costet. Les clients de Groupe E bénéficieront d'une baisse du prix du gaz dès le 1er janvier. Une diminution de 17% se profile en moyenne. Une maison individuelle qui consomme chaque année 20 000 kWh pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire bénéficiera même d'une baisse de 21%, soit une économie annuelle d'environ 600 francs. Cette réduction des prix est rendue possible par l'amélioration du niveau de stockage du gaz dans l'Union européenne. Informer et dépister davantage pour éradiquer la pandémie de sida. Hier se tenait la journée mondiale de lutte contre cette maladie. L'objectif de l'Office fédéral de la santé publique, c'est de ne plus avoir de nouvelles infections d'ici 2030. Chaque année, Génération Sexualité Neuchâtel met sur pied différentes manifestations. Un stand de dépistage et d'information va prendre ses quartiers demain de 9h30 à 16h à la Haute École Arc de Neuchâtel. Car en 2024, il est encore nécessaire d'informer les jeunes sur le sida. Selon Aneva, responsable prévention au GSN.
Les jeunes sont informés, la population est informée, mais jamais assez. Et dès le moment où il y a encore une infection par jour au VIH en Suisse, je pense qu'il est important d'en parler si on veut arriver à ces zéro contamination d'ici 2030. Donc informés, ils le sont, mais jamais assez. Et finalement, un centre de prévention, c'est aussi encourager aux tests de dépistage. Je crois qu'il faut passer par le dépistage. Et finalement, si ces 2 dernières années, on voit de nouveau un fléchissement des nouvelles infections en Suisse, léger, mais quand même, je crois que c'est important qu'il faut être informé par rapport au dépistage. Parce que c'est que un test de dépistage, sachant que le VIH est invisible, être séropositif, ça ne se voit pas. Il faut passer par le dépistage pour arriver à cette indétectabilité. I égale I, ça veut dire qu'une personne séropositive qui a un taux de virus, donc qui est sous traitement avec un taux de virus tellement faible qu'il n'est plus détectable, cette personne-là ne peut plus infecter. Et finalement, on sait que plus de la moitié de la population en Suisse n'est encore pas informée de ceci. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir déjà baisser la discrimination et baisser aussi les nouvelles infections.
Anne Evard qui répondait à Lydiane Gena dans la matinale. L'entretien complet à retrouver en vidéo sur rtn.ch. Je l'ai laissé entrer, je lui fais confiance. Ce sont les mots de Janine Favre, 92 ans. Cette habitante de Saint-Imier a été victime d'une arnaque aux faux policiers mardi passé à son domicile. L'un d'eux l'a gardée au téléphone et l'autre s'est rendu directement chez elle. En une heure, il la persuade que des malfrats ont eu accès à sa carte de crédit et qu'ils se sont peut-être aussi infiltrés chez elle. Conséquence, toutes ses économies se sont envolées, tout comme les quelques pièces d'or qu'elle gardait chez elle. Janine Favre est toujours sous le choc.
C'est naturellement un grand ébranlement de me rendre compte que j'avais suivi aveuglément tout ce qu'on me disait sans avoir un raisonnement correct, alors que j'aurais pu normalement me rendre compte que tout ce qu'ils me disaient, ça ne jouait pas et que c'était des mensonges. Malgré ça, j'ai fait tout ce qu'on me disait.
Avec un peu de recul, vous aviez des signes qui vous montraient que c'était une arnaque ?
Mais oui, c'est pour ça que je m'en voulais énormément d'avoir fait ce que j'avais fait, qui n'était pas du tout raisonnable. Vers la fin, j'ai commencé à douter. Et j'ai commencé à lui dire à ce monsieur, mais je me demande si ce n'est pas une arnaque. Mais il me disait, non, ne vous inquiétez pas. Non, on va bientôt venir vous chercher, vous allez tout récupérer, il n'y a pas de souci.
Des propos recueillis par Estelle Herman. Un deuxième cas d'arnaque aux faux policiers s'est déroulé le même jour à Saint-Imier. Personne n'a été interpellé pour le moment. Une enquête est en cours. La police bernoise fait état d'une recrudescence de ce type d'appels frauduleux. Vous retrouvez divers conseils à ce sujet sur notre site rtn.ch. Et il ne faut pas s'attendre à des baisses de loyers en janvier. L'Office fédéral du logement a maintenu à 1,75% aujourd'hui le taux d'intérêt de référence applicable au contrat de bail. Les musées ont attiré près de 15 millions de visiteurs l'an passé en Suisse. Le nombre d'entrées affiche ainsi une hausse de 12% par rapport aux années 2015-2019 d'avant la crise Covid. Ce sont les musées de sciences naturelles et techniques qui séduisent le plus, avec une augmentation de 27% du nombre de visiteurs. Et c'est la première fois qu'un géant des matières premières est jugé pour corruption devant le tribunal pénal fédéral. Le procès de Trafigura s'ouvre aujourd'hui à Bellinzone. L'entreprise de négoce est poursuivie aux côtés de trois personnes physiques en lien avec ses activités dans le secteur pétrolier en Angola. Des pots de vin auraient été versés à un agent public pour favoriser Trafigura lors de la signature de contrat. La multinationale aurait ainsi réalisé des profits de près de 125 millions de francs. Adria Budricarbo est enquêteur spécialiste des matières premières auprès de l'ONG Public Eye. Il analyse ce que risque Trafigura avec ce procès.
Au niveau financier, ce n'est pas grand-chose. Hein. Dans ce type d'affaires, l'amende maximale, elle est de 5 millions de francs suisses. Peut-être encore moins si Trafigura arrive à prouver qu'ils ont intention de collaborer dans le cadre de cette affaire. Mais le dommage, il est réellement réputationnel. Pour Trafigura, ce n'est pas du tout bon de se retrouver comme ça dans une salle d'audience avec des juges qui vont se pencher sur la double comptabilité qu'ils avaient mis en place, sur les intermédiaires qui étaient chargés de verser les pots de vin, et puis aussi avec des accusations qui visent notamment l'ancien directeur de Trafigura, décédé en 2015. On sent que l'omerta dans le secteur est déjà en train de se fissurer, parce que donc, la famille de M. Claude Dauphin, décédé en 2015, a réagi très très fortement à l'évocation du nom de M. Dauphin dans l'acte d'accusation. Donc ils considèrent qu'en fait M. Dauphin est jeté en pâture aux médias, et puis surtout il permet à Trafigura, en fait, à la direction actuelle, de se dédouaner en mettant toute la responsabilité sur une personne décédée.
Et ce procès de Trafigura devrait durer 3 semaines. Des audiences historiques se tiennent également devant la plus haute juridiction de l'ONU à La Haye depuis aujourd'hui. La Cour internationale de justice se penche sur les obligations juridiques des pays face au changement climatique et sur les moyens d'aider les nations vulnérables à combattre ces effets. Les débats se dérouleront devant un panel de 15 juges et doivent durer 2 semaines. Au total, plus d'une centaine de pays et d'organisations, dont la Suisse, présenteront des observations sur le sujet. L'État belge a quant à lui été condamné pour le placement forcé d'enfants au Congo. La Cour d'appel de Bruxelles a jugé le pays coupable de crimes contre l'humanité pour le placement de 5 fillettes métisses qui avaient été arrachées à leur mère et placées de force dans des orphelinats avant l'indépendance de 1960. L'État belge est sommé d'indemniser les 5 femmes aujourd'hui septuagénaires. Le bilan s'alourdit en Guinée. Au moins 56 personnes sont mortes lors de violents affrontements entre des supporters pendant et après un match de foot. Le gouvernement a lancé un appel au calme. C'est une décision controversée de l'arbitre qui aurait déclenché cette explosion de violence et des bousculades mortelles dans le stade situé dans le sud-est du pays. Selon la presse, il s'agissait d'un tournoi organisé en l'honneur du chef de la junte, Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis un coup d'État en septembre 2021.
RTN midi 25.
Sport. Une judokate neuchâteloise en or, Margot Stolz, est devenue championne de Suisse Espoir ce week-end à Yverdon. La sociétaire du JC Cortaillot Neuchâtel s'est imposée dans la catégorie des moins de 52 kilos. Un autre membre du club est encore monté sur la plus haute marche du podium. Thomas Guillen a gagné en Masters. Et membre du JKC La Chaux-de-Fonds, Ophélie Lutti a elle enlevé l'argent chez les élites en moins de 48 kilos. Les fondeurs du ski club La Vue des Alpes en verve dès l'ouverture de la saison. Ils ont fêté deux podiums lors de la première manche de la Coupe de Suisse, samedi à Goms, en Haut-Valais. Ilan Pitié a terminé deuxième d'une épreuve de sprint en style classique. Même rang en moins de 20 ans pour Antoine Béguin. Le lendemain, sur 10 km en style libre, Antoine Béguin s'est encore classé quatrième après avoir raté le podium pour un petit dixième. Juan Martín del Potro fait ses adieux au tennis de haut niveau. L'Argentin a disputé et remporté un match exhibition hier à Buenos Aires face au Serbe Novak Djokovic, et ceci devant près de 15 000 spectateurs. Âgé de 36 ans, Juan Martín del Potro a cumulé les blessures ces derniers mois, ce qui lui a gâché sa fin de carrière. Son dernier match professionnel remonte à février 2022. L'Argentin aura remporté 22 titres sur le circuit et il compte également deux médailles olympiques à son palmarès. Je vous souhaite un excellent après-midi.